La collective. C'est une émission hebdomadaire. C'est à plusieurs. C'est ensemble. C'est local. C'est beaucoup d'ici, parfois de là-bas. C'est un mélange, la collective.
C'est des interviews, de l'actualité, des chroniques, du reportage, de la musique. C'est divers et c'est varié.
La collective, c'est ta voix.
C'est ma voix.
C'est nos voix. C'est une fois.
C'est de temps en temps. C'est plein de fois.
C'est tout de suite. Et c'est maintenant sur Radio Saint-Fé.
La collective.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bienvenue dans la collective. Nous ne sommes pas en direct aujourd'hui, c'est une émission qui est préenregistrée, mais nous nous retrouvons, comme tous les mardis, de midi à 13h. La collective, c'est une émission qui est animée et construite par les bénévoles et les salariés de Radio Saint-Ferréol. D'ailleurs, si vous souhaitez rejoindre l'équipe de rédaction de la collective, n'hésitez surtout pas. Pour cette émission, c'est Anna, salariée de Radio Saint-Fé, qui vous parle. On se retrouve aujourd'hui pour aborder une thématique complexe, celle des violences conjugales. En 2021, 113 femmes ont été victimes de féminicides en France, selon le collectif Féminicide par compagnon ou par ex-compagnon. Depuis le début de l'année 2022, ce même collectif recense 13 femmes décédées en France sous les coups de leur conjoint. Ce chiffre est malheureusement évolutif. Dans la Drôme, et face à ce constat, les associations font au mieux pour éviter ces violences. En octobre 2021, le Sénat a publié un rapport de 400 pages intitulé « Femmes et ruralité, en finir avec les zones blanches ». Dans ce document, on comprend que près de la moitié des féminicides sont commis en milieu rural. Ce rapport compile la restitution des travaux menés par les rapporteurs des départements des Hautes-Alpes, de la Vienne, de Lozère, du Rhône, de Dordogne et de la Drôme. Parmi les associations qui ont participé à ce rapport, j'ai pu m'entretenir avec l'une d'entre elles, l'association Les Chouettes, et donc avec Lynn et Cora, qui m'a expliqué qui étaient ces femmes victimes de violences.
On a soit des femmes, pour faire très court, on a soit des femmes qui sont victimes de violences actuellement et qui n'ont pas encore pris la décision de, ou qui n'arrivent pas encore à quitter leur compagnon pour différentes raisons, soit on a des femmes qui sont des ex-victimes de violences, leur compagnon les a quittées ou elles les ont quittées plutôt, c'est plutôt dans ce sens-là. Dans les deux cas, elles ont besoin d'être soutenues, pas tout à fait pour les mêmes raisons. Celles qui ont déjà quitté leur compagnon, ça va peut-être être plus pour un soutien empathique, une écoute empathique, mais ça peut être aussi parce qu'elles n'ont pas encore porté plainte et elles se posent la question, est-ce que je porte plainte ou pas? Et comment faire? Donc nous, on les accompagne aussi bien au niveau de l'écoute, une écoute empathique. Une femme vient nous voir. La première attitude qu'on a à avoir, c'est vraiment une écoute empathique et on les croit, contrairement à certaines institutions où on ne croit pas ce qu'elles disent. Nous, on part du principe que si une femme fait cette démarche, et on ne peut pas se tromper, hein, parce que les signes qu'elle nous révèle, que ce soit dans le verbal ou dans le non-verbal, ne peuvent pas tromper. On voit bien que ce qu'elles disent, c'est la vérité, et nous les croyons, et c'est très très important. C'est vraiment le point de départ. Et voilà. Et dans les deux cas, de toute façon, dans les deux situations que j'ai nommées, on les accompagne dans leur questionnement. On fait pas les choses à leur place. On ne cherche pas à forcer une confidence ou un renseignement. C'est vraiment un climat qui s'installe entre nous. Et à partir de là, elles sont libres de choisir ce qu'elles veulent nous dire. Alors, c'est sûr que quand on les accompagne individuellement, on laisse venir la personne, et ça évolue en fonction de chaque personne, de sa personnalité, de son vécu, et puis de la confiance qu'on arrive à installer ensemble.
Mettons, une femme a été victime de violences, elle vous contacte, et vous vous rencontrez, et donc la première chose qui se passe, c'est une discussion.
Elle nous contacte, ou des institutions nous donnent les coordonnées d'une personne qu'elles ont rencontrée. Alors, ça peut être l'institution médicale, sociale. Elle demande, bien sûr, avant, tout le temps, aucune femme qui nous est, envoyée par une institution, on a leurs coordonnées, parce que la victime en question est d'accord. Et donc, en général, on laisse la personne nous appeler mais ça peut être nous en fonction de l'accord qui a été passé avec donc l'institution médicale, l'institution, la gendarmerie, pourquoi pas, la gendarmerie nous appelle assez souvent maintenant.
Est-ce que ça vous est arrivé d'être contacté par une femme qui est dans une situation de détresse, c'est-à-dire il y a une urgence, vitale, il faut absolument qu'elle quitte son domicile, il faut absolument qu'elle parte. Est-ce que dans ce cas-là, vous avez la possibilité d'intervenir ou est-ce que vous la redirigez vers d'autres structures ?
On ne va pas forcément aller à leur domicile parce que ce n'est pas notre rôle. Parce que je tiens à préciser que nous avons une charte de l'accompagnement qui est très précise. En aucun cas, on empiète sur le territoire, le domaine d'action et d'activité des institutions dont je viens de parler.
D'accord.
On a constitué un réseau aussi bien d'institutions comme par exemple le CIDFF, avec l'ARF, un groupe de parole... Un groupe de travail est actif une fois par mois et ce groupe actif se réunit une fois par mois et ce sont des partenaires autour de la question de la santé des femmes et en particulier des violences faites aux femmes. Et chaque mois, on a soit un thème, soit c'est une institution, une association qui se présente.
D'accord.
Voilà. Et donc ce réseau, eh bien, le fait de se rencontrer mensuellement est très très important. Ça nous permet, quand on a des situations de détresse, de savoir à qui adresser la personne. Ça nous est même arrivé, je vous le dis sincèrement, de nous-mêmes d'avoir accueilli des personnes chez nous,
oui.
Parce qu'il n'y a pas toujours eu de la disponibilité en termes d'hébergement. Et parfois, on est dans des situations tellement extrêmes que c'est le côté humain qui prime.
D'accord.
Mais en général, ce sont quand même les institutions qui sont dédiées à ces questions d'hébergement qui vont intervenir, ou la gendarmerie. On peut nous faire le relais, et à ce moment-là, ça peut être le...
D'accord.
Après, c'est plus nous qui suivons la situation. Et par contre, on reste en lien avec l'institution qui va intervenir pour qu'il y ait un vrai suivi, comment dire, cohérent et progressif par rapport à la situation.
Je me demandais s'il y avait, entre gros guillemets, vraiment, un profil type de femmes victimes de violences, de ce qui résultait du rapport qui a été publié en octobre. C'est que ce qui faisait que les femmes pouvaient être amenées à subir des violences, c'était la situation, enfin le contexte dans lequel elles se trouvaient. Le fait de pas avoir de travail ou d'avoir des difficultés à se déplacer, et que ça crée une emprise plus forte de l'agresseur. Est-ce que c'est des choses qui se retrouvent pour toutes les femmes victimes de violences, ou pas forcément, ou vous avez des profils très différent?
Alors déjà, il est important que je signale, je ne sais pas comment vous allez présenter globalement le contexte, mais on est quand même en milieu rural et déjà quand on parle de milieu rural, on comprend que la situation ne peut pas être la même qu'en ville. Le profil de la personne, justement, ça va être une personne qui n'a pas forcément, alors qui est souvent en état de précarité parce qu'elle n'a pas de travail ou parce que justement de par les violences qu'elle subit, on lui a enlevé. Ça peut arriver, son permis de conduire. Ça peut être aussi, on la coupe de son lien social. Et comme on est dans un milieu rural, justement, les gens se connaissent entre eux. Et c'est beaucoup plus difficile pour la victime de parler. Alors ça, en termes de profil, justement, c'est un point qui est très important et des points très importants sur lesquels on doit être vraiment très, très vigilante et vigilants tous. Voilà, donc l'éloignement géographique des institutions, aussi bien l'hôpital, la gendarmerie, la justice, les établissements sociaux, etc., nous-mêmes, parce que dans le Oudiwa, on est très, très éloigné. Enfin, il y a des villages
qui sont très éloignés de tout.
Et donc voilà, ça c'est des caractéristiques qu'on repère, de manière... Ça donne un profil, pour répondre à votre question.
Le fait que ces femmes soient précarisées aussi par leur agresseur, c'était quelque chose qui arrivait dès le début, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont en relation avec un homme? Et au fur et à mesure, il y a une emprise qui se met en place. Elles perdent leur travail ou elles arrêtent. Comme vous dites, le permis est retiré. Est-ce que c'est quelque chose qui se fait petit à petit? Ou est-ce que c'est des fois des situations qui arrivent tout de suite, dès qu'il y a relation, dès qu'elles sont en couple avec un homme?
On ne fait pas de statistiques parce que pour tout vous dire, il n'y a que des bénévoles dans notre association.
Oui.
On n'est pas si nombreuses que ça à être vraiment actives sur le terrain. Et donc, on ne peut pas, par exemple, faire ce qui serait vraiment une très bonne chose pour la compréhension de ces situations, c'est-à-dire des statistiques sur différents points qu'on pourrait repérer, comme celui dont vous parlez.
Oui.
Mais on ne le fait pas, donc c'est un peu au feeling que je vous réponds. Je dirais qu'il n'y a pas un profil type, comme vous le disiez tout à l'heure, par rapport à cette question. Manon, ça dépend vraiment de chaque couple, de chaque personne. Mais en général, je le dirais comme ça, au feeling, par rapport à ce que j'ai vécu, c'est au fur et à mesure que ça se dégrade. Et d'ailleurs, on peut signaler que ce qui a été observé de manière un petit peu généralisée, là, c'est que c'est au moment de la naissance du premier et du deuxième enfant que les violences commencent.
Mmh.
Et que donc, tout ce qui va avec les violences, ce qu'on vient de citer, hein, ça peut être on retire le permis de conduire, on empêche la femme de voir ses amis, sa famille, il y a un éloignement, on isole la personne. Ça dépend vraiment du profil du couple. On l'a pas regardé au niveau statistique de manière précise.
C'est-à-dire que, enfin, en tout cas pour certains couples, il y a un bébé qui arrive et c'est le fait que la femme soit peut-être plus dédiée au bébé. Enfin, qu'est-ce qui est rapporté par les femmes que vous avez rencontrées, c'est le fait qu'elles soient plus accaparées par leur enfant et donc le mari ou le conjoint commence à leur reprocher ça.
Quand les femmes sont avec des conjoints qui deviennent violents à la naissance d'un enfant, elles nous ont presque toutes dit, hein, là c'est pareil, on ne l'a pas noté systématiquement en termes de statistiques, mais qu'elles l'avaient déjà pressenti avant. C'est-à-dire que c'est en présence d'un homme qui a déjà les marques d'un homme dominant qui va mettre une personne sous emprise pour sa propre satisfaction. C'est lui le centre d'intérêt dans le couple. Ça veut dire que quand l'enfant arrive, il n'est plus le centre d'intérêt et donc ça active la violence qui était potentielle et ça dégénère. Effectivement, la femme est moins disponible. Un bébé qui arrive, c'est quelque chose de très très fort pour une femme. Hein. Je pense que c'est pas nécessaire qu'on développe ça parce que, en tout cas, voilà, on a constaté cette situation-là.
Est-ce que c'est des hommes qui arrivent la plupart du temps à manipuler les autres?
Oui, c'est arrivé. Hein. J'ai dit plusieurs fois, je vais peut-être pas exagérer, quelques fois. On a eu cette situation d'un homme violent qui terrorisait non seulement sa compagne, mais les voisins, et que même avec l'intervention du maire, c'est très délicat parce que ils se connaissent et bien entendu, ils s'arrangent toujours dans ces cas-là. C'est pas quand les gendarmes viennent faire une enquête qu'on s'aperçoit qu'il est violent. Et comme il peut être vraiment très 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 violent, ben la femme, elle a tellement peur qu'elle va dire que non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Voilà.
Parce que de son côté, il y a de la honte. Est-ce que c'est qu'elle veut surtout pas que ça se sache et qu'elle veut que rester discrète sur ce qui se passe?
Mais tout à fait, oui, bien sûr. Alors, il y a de la peur et de la honte, effectivement. Et en plus, elles se culpabilisent. Elles sont dans un tel climat d'emprise pour certaines qu'elles en arrivent à ne plus avoir d'estime pour elles-mêmes et à penser qu'elles sont responsables de ce qui arrive. Et avant qu'elles se reconnaissent comme victimes, il peut se passer du temps parce qu'elles ont l'impression que c'est normal. Et souvent, on parlait de profil tout à l'heure.
Oui.
Elles ont un profil qui était déjà marqué comme victime par rapport à soit d'autres hommes, soit dans leur famille où il y avait de la violence. Et elles connaissent cette atmosphère de violence et elles trouvent presque ça normal. Et il y a un moment, justement, le fait de venir nous parler, à nous ou à des personnes qui sont dans l'écoute, comme toutes les institutions dont on a parlé, ou les associations, là, elles vont se rendre compte, mais je suis victime, c'est pas normal cette situation.
Merci Aline pour son intervention. Nous allons faire une petite pause musicale avec le titre My Man de Billie Holiday. A tout de suite sur Radio Saint-Fé.
It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold wet, tied your bed. All of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks. He's no hero out of books, but I love him. Yes, I love him. Two or three girls has he that he likes as well as me. But I love him. I don't know why I should. He isn't true. He beats me too. What can I do? So he'll never know. All my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm here.
On vient d'écouter le titre My Man de Billie Holiday. Vous êtes toujours sur Radio Saint-Ferréol 94.2 FM. On parle aujourd'hui dans cette collective du jour de violences conjugales. Parmi les associations qui aident les femmes victimes de violences, il y a celles qui leur permettent de reprendre goût à la vie à travers des séjours entre femmes. Il y a ces associations qui permettent de se retrouver, d'échanger entre femmes et de vivre des moments ensemble. C'est la mission de Femmes Répit. Et Justine, l'une des membres de cette association, a bien voulu nous en parler.
Je m'appelle Justine, je suis animatrice de formation. J'ai aussi une formation en art-thérapie et j'ai fait une formation artistique. Et du coup, je suis cofondatrice et coprésidente de l'association Femmes Répit. Et moi, j'ai plus la charge de créer les séjours, d'organiser tout ce qui est question logistique pour l'organisation des séjours. Voilà.
Est-ce que tu peux me présenter Femmes Répit ?
Alors, Femmes Répit, du coup, c'est une asso qui est née fin août 2020. Du coup, l'idée, c'était de créer des séjours de répit pour des femmes victimes de violences conjugales avec ou sans enfants. Le deuxième objectif, c'est créer des dispositifs de sensibilisation pour différents publics, pour lutter contre les violences sexistes, sexuelles ou de genre. Et notre troisième gros objectif, c'est de créer des événements pour parler de ces problématiques auprès d'un plus large public.
Et voilà. Ça serait quoi comme événement, par exemple ? Tu as déjà des idées
ouais,
en tête ?
Et ben, on avait fait les extravagantes l'année dernière. C'était un petit festival avec spectacle, diffusion, audio. On n'a pas pu faire le concert à cause du Covid, mais voilà, atelier et tout ça. Et du coup, là, on le refait en mai pour le week-end de l'Ascension. Et ça sera le 28 mai à Recoubeau, au Tas de Fumier.
Comment est-ce que ça se déroule un séjour pour des femmes qui ont été victimes de violences? Comment est-ce qu'elles sont mises en contact avec Femmes Répit? Comment est-ce que aussi vous choisissez, entre gros guillemets, les femmes qui viennent dans ces séjours?
Comment on oriente?
Comment vous orientez?
Alors, pour commencer, on a tout un travail avec des partenaires, en fait, donc le CIDFF, la Sauvegarde, enfin toutes les grosses institutions de la Drôme, en fait, qui accompagnent des femmes victimes de violences conjugales. Nous, on a créé des sortes de critères d'orientation pour ces femmes, parce qu'on ne peut pas, par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de dispositif téléphone grave danger ou mesure anti-rapprochement, parce qu'on mettrait le groupe trop en difficulté, enfin c'est trop dangereux en fait. Pas prendre ces risques-là, c'est dangereux pour les femmes et dangereux pour l'équipe. Mmh. Du coup, elles doivent être séparées de leur conjoint physiquement, au moins, même si on sait qu'une séparation physique n'équivaut pas à une séparation psychologique, ça c'est sûr. Et après, elles doivent surtout être accompagnées par des structures, comme je disais tout à l'heure, ça peut être la Sauvegarde, les Chouettes Surdits, le CIDFF. Mmh. Pourquoi ? Parce que nous, c'est une action qui est ponctuelle, on n'est pas dans un accompagnement de longue durée. C'est vraiment à l'interstice d'un parcours de réparation. C'est là où notre thérapeutique, elle intervient. On est en complémentarité par rapport au dispositif qui existe déjà. Du coup, après, donc c'est les partenaires qui nous orientent les femmes. Et en fonction de ça, on a une commission nous, qui se charge de voir si ça peut coller ou pas. Et après, donc Constance Poisson, qui est l'assistante sociale de l'asso, elle rencontre les femmes ou les profils qui pourraient correspondre pour les séjours. Et à partir de ça, voilà, il y a une évaluation qui est faite, et c'est décidé en commission. Et ce n'est pas un non. Si ce n'est pas possible, ça sera un oui, mais plus tard. C'est vraiment important.
Comment se déroule un séjour alors ? J'ai cru comprendre que c'était sur un peu moins d'une semaine.
Ouais, c'est 5 jours. Mmh. En fait, on a beaucoup travaillé avec une autre de mes collègues en séjour de répit pour des familles avec des enfants en soins palliatifs. Du coup, on s'est beaucoup inspiré de ça. Donc, la temporalité de 5 jours, elle est chouette pour créer du lien déjà entre tout le monde. Mais aussi, ça permet aussi de ne pas créer un lien qui est trop fort aussi, surtout dans les problématiques de violence conjugale. Donc, ces 5 jours qui sont entièrement pris en charge. Les femmes n'ont rien à payer. Donc, on vient les chercher à leur lieu de... Enfin, à leur, là où elles vivent. Donc, ça peut être des lieux d'hébergement ou à leur domicile. Et après, sur place, il va y avoir différentes activités. Soit ça va être autour des activités physiques et sportives, adaptées. Ça va être autour de la créativité et du bien-être. C'est vraiment les 3 items qui ont été repérés pour accompagner les femmes dans leurs besoins. En fait, avant de créer les séjours, on a fait ce qu'on appelle un diagnostic auprès de professionnels et de femmes qui ont été victimes pour savoir si notre proposition, en fait, si nos projections, en fait, c'était pas un fantasme, si ça pouvait vraiment fonctionner et qu'on allait répondre vraiment à un besoin. De manière aussi à co-construire le projet aussi avec des femmes qui ont été victimes. Et dans l'association, on a aussi des femmes qui ont été victimes, de les avoir aussi.
Donc du coup, qui ont une expérience et qui sont plus à même de comprendre la situation.
Exactement.
De ces femmes.
Okay. Et après, du coup, les activités, donc ce que je disais, c'est vraiment de la thérapeutique informelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une fonction thérapeutique. Mais l'idée, c'est d'être dans une relation symétrique avec ces femmes pour éviter les rapports de domination. Du coup, il y a toute une réflexion autour de ça. C'est pareil, quand on part, moi, je ne suis pas animatrice, je suis accompagnante. La travailleuse sociale, elle est accompagnante. Voilà, on fait très attention à ces titres-là, c'est important.
D'accord.
Pour que les femmes se sentent toutes au même niveau.
Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'activités qui ont eu lieu pendant le premier séjour ?
Du coup, on a fait de la danse avec Jessica Casdelari, qui est danseuse et qui est professeure de danse contemporaine plutôt dans le DIWA.
D'accord.
On a fait des ateliers baume avec Mélisande Hardy, qui est animatrice nature. Donc là, c'était vraiment recréer des baumes de A à Z. Là, c'était vraiment l'idée de quel baume je crée pour moi, pour répondre à mes besoins. Donc ça, c'est important aussi de toujours travailler cet aller-retour, en fait, entre quels sont mes besoins. C'est vraiment ça, l'idée, c'est de se remettre au centre. Et après, on a fait aussi de l'éthologie équine avec Equisens, qui est basée sur Saillant. Donc là, c'est vraiment hyper intéressant, parce que là, c'est toute la question du comportement animal. Et du coup, par là même, quel est notre comportement, comment on réagit, comment on pose un cadre, comment on met ses limites. Donc ça, c'était hyper efficace. On a fait aussi un atelier qui est organisé par l'association La Bonne Aventure, ça s'appelle Terre et Harpe. Donc là, on était plus sur de la créativité et de l'expérience sensorielle. Et il y a eu aussi des massages qui ont été faits par Sandrine Pianu, qui est, elle, plus basée sur Beaufort-sur-Gervanne. Et après, nous, on propose des petites animations, des temps collectifs le soir, enfin voilà.
Quels ont été les retours des femmes qui ont participé à ce séjour, alors ?
Eh bien, mieux que ce qu'on attendait. C'est surtout, en fait, après le séjour, on a créé ce qu'on appelle une action collective sur 3 mois d'affilée. En fait, elles se sont vues sur 3 séances à 1 mois d'intervalle pour créer une action ensemble. Donc, nous, on avait mis un budget pour ça, pour qu'elles puissent choisir ensemble une activité. L'idée, c'est vraiment de créer un groupe de pères aidants entre elles, comme le principe des alcooliques anonymes, où du coup, ça crée vraiment de l'autonomie, du soutien entre pères, en fait.
D'accord. Et donc là, elles ont gardé du lien toujours ?
Oui, complètement.
D'accord.
Ouais. Et depuis, donc là, on a tout fini. L'action collective a été réalisée aussi. Et bien sûr, elles gardent perte du lien, les effets, on va dire, concrètement aujourd'hui, bah, par exemple, il y a eu un retour à l'emploi pour une femme qui pensait qu'elle ne pourrait pas retrouver un travail normal vu les effets des violences sur elle en termes de fatigabilité, de concentration. Il y a des femmes qui sont mises dans des réseaux bénévoles d'accompagnement de femmes victimes de violences conjugales. Il y en a qui se sont réautorisées, par exemple, à refaire de la randonnée qu'on a fait en séjour, alors qu'elles avaient arrêté depuis plus de 20 ans.
D'accord.
Parce que ça leur était interdit aussi d'une certaine manière. Il y en a une qui s'est remise à faire de la musique. Il y en a une qui accepte beaucoup mieux les mesures éducatives pour ses enfants aussi. Elle travaille mieux aujourd'hui. Enfin voilà, il y a des acceptations. Il y a... En gros, c'est vraiment une rehausse de l'estime de soi et de la confiance en soi. Quoi.
Et tu disais donc c'est des femmes qui viennent de toute la France, c'est ça ?
De toute la Drôme.
Ah, de toute la Drôme.
Pour l'instant, on travaille sur toute la Drôme, ouais. Parce que nous, du coup, c'était important. Bah, si elles peuvent se revoir, c'est chouette et c'est ce qui s'est passé. Il y en a qui ont fait du self-défense ensemble, elles se prévoient des choses entre elles, en fait. Du coup, c'est ça qui est super intéressant. On verra plus tard pour élargir à d'autres territoires, mais déjà dans la Drôme, milieu rural aussi, majoritairement, il y a besoin, en fait, de dispositifs comme ça.
Les femmes qui sont venues dans ce séjour, est-ce que pour la majeure partie d'entre elles, c'est des femmes qui étaient en situation de précarité ou qui sont en situation de précarité ?
Oui, pour au moins trois d'entre elles. En fait, le problème, c'est que ce qui se passe aujourd'hui, nous en tout cas avec le public qu'on accompagne, c'est que les violences, elles se perpétuent, mais à travers tout ce qui est administratif. Donc, c'est pareil, pour s'il y a eu des plaintes ou des choses comme ça, c'est très 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 long. Ça peut prendre des années et des années. Oui, enfin, de toute façon, forcément, ça impacte.
Donc là, tu veux dire, il y avait des femmes qui étaient dans cette situation-là de démarche administrative, mais qui étaient donc très violentes parce que très longues et très chronophages, en fait.
C'est ça. Et puis, on sait aussi que très peu d'hommes, de conjoints en tout cas, ou de conjointes auteurs sont condamnés. Donc voilà, c'est ça. D'accord. Aussi la difficulté. Après, voilà, nous, les femmes qui étaient là, à la base, il devait y avoir 5 femmes. Il y en a une qui n'a pas pu venir le matin même du séjour. Sans doute aussi, c'est quand même... prendre un risque aussi que de venir en séjour avec des gens qu'on connaît pas, dans un lieu qu'on connaît pas. Mais sur les 4, oui, il y en avait 2 qui travaillaient, mais après, voilà, ça reste des travails qui sont pas suffisants, en fait, pour subvenir aux besoins de la famille, en fait.
Et donc, est-ce que vous pouvez être contacté un peu par, à tout moment, par des femmes qui ont été victimes de violences, ou est-ce que c'est plutôt d'autres associations ou d'autres structures ?
Non, il faut que ça passe par des professionnels, de préférence, ouais. Parce que les professionnels, en tout cas, nous, c'est ça notre réseau, c'est pour ça qu'on travaille avec eux, c'est pour que eux puissent identifier quelles femmes pourraient bénéficier des séjours. Voilà, parce que c'est vraiment pas, on prend pas les femmes qui sont en urgence, quoi. De toute façon, quand elles sortent quand elles se séparent, en tout cas, il y a quand même en moyenne 7 allers-retours. Maintenant, ça a baissé, je crois que c'est 5. Mais c'est normal, en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, les femmes pourquoi elles partent pas. Mais parce qu'il y a plein de phénomènes d'emprise, il y a tout un travail psychologique et c'est sur la psychologie, en fait, que ça joue beaucoup.
La question, encore entre gros guillemets, amoureuse, en fait, qui est évoquée de... Pas du tout, d'accord.
Pas du tout. Okay. Non, en fait, nous, on ne fait pas de cercle de parole, il n'y a pas de psychologue sur le site. Nous, on est suivi, on a toujours une ligne pour notre psychologue si on a un problème sur le séjour ou quoi, s'il y a des besoins. Mais nous, l'idée, c'est vraiment d'être dans une thérapeutique informelle, comme les séjours de répit en soins palliatifs avec les familles. C'est qu'en fait, les personnes vont parler au moment où elles en ont envie. Donc, ça peut se passer au petit-déj, comme ça peut se passer pendant une séance d'activité, ça peut se passer pendant un repas, ça peut se passer n'importe quand. Et c'est ça qui est chouette, c'est qu'on les en dit. On n'est pas là pour. C'est à elles de choisir. Nous, c'est vraiment ça, en fait. C'est déclencher chez elles ce qu'elles ont. Enfin, c'est à elles de décider, c'est à elles d'être sujet, en fait. Non-dépendant. Voilà, c'est vraiment ça, à retrouver leur intégrité. Si elles ont envie d'en parler, elles en parlent. Si elles n'ont pas envie, elles n'en parlent pas. Au final, de toute façon, elles en parlent. Et très, très vite, puisque le lien de confiance, il se fait vite. C'est ça l'avantage des groupes de pères, en fait. C'est que même si les situations sont différentes, il y a quand même des choses qui sont très, très similaires.
Dans ces séjours, c'est... Donc, évidemment, même au niveau des intervenantes, c'est que des femmes, donc.
En tout cas, dans l'équipe accompagnante, ça c'est sûr, on avait vu avec les professionnels et les femmes, ce ne sont que des femmes.
D'accord.
Après, pour les intervenantes, là, il s'est avéré que c'était que des femmes, mais il y a la possibilité qu'il y ait des hommes.
D'accord, mais ça c'est ok,
voilà.
Je veux dire, ça a été...
Ouais, ça c'est ok, ouais. Oui, bien sûr, après c'est juste les thématiques qu'on a choisies qui font que, et puis les réseaux qu'on a. Mm-mm. On voulait vraiment travailler avec des gens de confiance, en fait, c'est hyper important. Mm-mm. Pour mettre personne en difficulté. Trasso, elle est ouverte aux hommes, parce que souvent c'est la question qu'on nous pose. Voilà, s'il y a des bénévoles hommes qui veulent, il n'y a aucun problème. De
D'accord.
toute façon, on n'est pas du tout fermé à ça, mais beaucoup de gens ont la représentation que c'est pas possible, quoi. Ce qui est faux. Après, notre jour, l'idée c'est de se réconcilier avant tout avec soi et pas forcément avec les hommes tout de suite. Vraiment, au début du séjour, les femmes sont vraiment dans la culpabilité, se sentent coupables de leur situation, elles se sentent nulles, quoi. Vraiment, c'est ça. Et en fait, il y a vraiment un retournement à un moment donné, mais en fait, c'est pas nous, quoi. C'est pas nous, c'est en tout cas nos conjoints. C'est pareil, notre asso, ça peut être des femmes qui sont homo, enfin, il y a aucun problème, il y a des femmes aussi qui sont auteurs, quoi.
Oui.
Ça, faut pas le nier, et on est ouvert aussi à ça, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, nous, ce qu'on travaille, c'est vraiment cette relation de violence conjugale, quoi, dans le cadre de la conjugalité.
Est-ce qu'il y aura des prochains séjours ?
Oui, tout à fait. Le prochain séjour, ça va être à la Toussaint. On voulait en faire deux cette année, mais en fait, vu nos métiers, nos professions, on n'a pas le temps, en fait. Puis on veut le faire bien. Donc on renouvelle cette expérience. On a juste deux, trois trucs. On va partir à moins d'accompagnantes. Ça sera deux accompagnantes, une cuisinière, pour laisser encore plus la place aux femmes. Et du coup, on va partir avec 6 femmes pour ce séjour.
Merci à Justine pour nous avoir accordé du temps. Il est le moment de faire une petite interlude sonore avec le titre « En secret » de Dominika.
C'était des temps obscurs, tête contre un lavabo, traité comme une raclure quand tu voulais. Et souvent tu voulais, j'en avais jamais trop. Tu donnais, et en bas en haut. Oui, mais en secret, tu m'aimais bien. Combien nous regardaient, ils bougeaient, mais trop tard. J'étais déjà par terre. C'était tout noir. Et c'est toi qui soignais. Et avec tant d'égards. Puis tu recommençais quand c'était marre. Oui, mais en secret, tu m'aimais bien. C'est fini, j'ai eu beaucoup d'amis. Je leur laissais penser qu'ils m'épaulaient. Je crachais sur hier, comme pour dire ça va mieux. Mais c'est dur en crachant d'éteindre un feu. Car oui, je t'aime bien. En secret, on s'aimait.
Vous venez d'entendre En secret de Dominika, vous êtes toujours sur Radio Saint-Ferréol 94.2 FM. Comme évoqué au début de cette émission, un rapport a été publié cet automne par le Sénat au sujet des femmes en ruralité. La sénatrice de la Drôme, Madame Marie-Pierre Monnier, qui est aussi vice-présidente de la délégation aux droits des femmes, a répondu à mes questions. Je lui ai demandé où en était la coordination des différentes structures drômoises en ce qui concerne les violences conjugales.
Comme moi, j'ai participé au rapport en tant que rapporteur, je me suis permise de contacter tous ceux que je connaissais et que je sentais acteurs dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc la gendarmerie, l'État, la personne de ce préfet de dit, les intervenants sociaux en gendarmerie, les chouettes, femmes répit, CIDFF, enfin tout ça. C'est vrai que dans le rapport, dans les recommandations, il paraissait important, pour ce qu'on a entendu au niveau national, pas seulement en Drôme, qu'il y ait une coordination de ce qui existe. Parce que si vous prenez la lutte contre les violences faites aux femmes, il faut, dans un premier temps, quand il y a vraiment danger, il faut arriver à extraire les femmes du foyer, donc leur proposer un accueil d'urgence. On s'est rendu compte, et ça c'est particulièrement vrai en Drôme et de partout, qu'il y a des initiatives qui sont dues parfois à des élus. Moi, j'en connais en Drôme, des associations qui portent ça, vous avez les chouettes et femmes répit, c'est le CIDFF aussi, mais qu'en effet, il manque de coordination. Et donc, c'est en ce sens qu'on a dit qu'on avait besoin de coordination. Il y a quelque chose qui est en train de se faire en Drôme, c'est en cours, mais qui est peut-être plus dû à l'interpellation que j'ai eue du président de la République que le rapport lui-même. Il est venu... Macron était venu, vous savez, à Chabeuil, et après il était allé à l'Hermitage, il avait reçu une gifle, ça situe un peu les choses.
Oui,
mais avant,
souviens,
il avait pris la peine de nous interpeller enfin de nous recevoir en fait. Et on pouvait l'interpeller sur les sujets. On était des parlementaires, plus la présidente du département, et j'étais la seule de lui parler du sujet des violences faites aux femmes, en l'interpellant sur le nombre de bracelets d'anti-rapprochement, du manque de places d'accueil d'urgence, et sur le fait qu'on avait besoin d'une intervenante sociale en gendarmerie supplémentaire. Mm-hmm. C'était pas une lubie de ma part, c'était le constat. D'abord, le nombre de places d'hébergement, il en manque partout en France, en Drôme comme ailleurs. Et l'intervenant social de gendarmerie, je m'étais entretenue avec le colonel de gendarmerie. Et ça l'a vraiment piqué au vif parce qu'il veut en faire un point fort de son quinquennat. Du coup, son directeur de cabinet m'a répondu, le ministre Darmanin m'a répondu pour ce qui est de l'intervenant social de gendarmerie, pour ce qui est du nombre de bracelets anti-rapprochement qui étaient au nombre de 3 en Drôme, en me disant bien que s'il y en avait besoin de plus, ce n'était pas un sujet. Et de ce fait-là, la préfète m'a associée à des réunions, il y en a eu à peu près 2, où le point est fait de où on en est, des accueils d'urgence. Bon, vraiment, voilà. Et donc, un travail a été commencé, bon, il est en cours, de recenser un petit peu. Moi, j'ai bien insisté sur le fait que moi, parlementaire, je n'ai pas à savoir vraiment ce qu'il y a. Ce n'est pas mon sujet. Ce qui est important, ce sont ceux qui sont près des femmes et qui doivent, quand le besoin s'en fait sentir, les isoler, les extraire du foyer, que tout le monde soit bien au courant de ce qu'il y a de disponible. Et les gendarmes ont bien expliqué, parce qu'ils disent souvent que, bon, vous savez, ils font un boulot vraiment de formation de leur personnel, enfin, les gendarmes, mais également, ils accompagnent les femmes et qu'ils n'ont pas toujours toutes les infos non plus. C'était important, voilà. Et la préfète a l'air vraiment engagée sur ce sujet, sans langue de bois, vous voyez. On en est où? Qu'est-ce qu'il faut faire et où on va aller? C'est en cours et cette coordination est en train de se faire. Je pense qu'elle est essentielle, je le redis bien. Il ne s'agit pas que tout le monde sache tout, mais il faut que ceux qui sont au cœur du dispositif et qui vont avoir besoin de connaître où on peut placer les femmes et quelles sont les associations qui gèrent ça, le sachent. Voilà.
Merci à Marie-Pierre Monnier pour son intervention. Pour conclure cette émission, écoutons ensemble le titre « Come to me » de Björk lors du live Björk Orchestral en 2021. Très bonne écoute.
Fire, and I'll catch you.
Vous venez d'entendre Come to Me de Björk, nous sommes toujours sur Radio Saint-Ferréol 94.2 FM. Il est temps de conclure cette émission, mais avant j'aimerais rappeler les numéros d'urgence pour les femmes victimes de violences, le 3919, le 116 006 et le 17 en cas d'urgence. Merci à Lynn, à Justine et à Marie-Pierre Monnier pour leur participation. L'émission sera rediffusée le mercredi à 8h du matin. Est disponible en podcast sur radiosaintfé.com. C'était Anna au micro et je vous dis à bientôt.